Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans Pourquoi Amour fait mal, Eva Illouz propose un essai de sociologie consacré aux formes contemporaines de la souffrance sentimentale. Son point de départ est décisif, les déceptions, hésitations et ruptures ne relèvent pas seulement de fragilité psychologique individuelle. Elles sont aussi produites par des institutions, des normes de genre, des marchés de la rencontre et des idéaux culturels propres à la modernité. Le livre examine ainsi la transformation historique des manières de choisir un partenaire, de désirer, de se lier et de rompre. Illouz mobilise des textes littéraires, notamment de Jane Austen, des témoignages et des matériaux issus de la culture contemporaine pour comparer des cadres amoureux très différents. Elle analyse les effets ambivalents de la liberté de choix, de la sexualisation des rapports, de la culture thérapeutique et de la marchandisation des rencontres. Loin de regretter simplement les contraintes du passé, cet ouvrage cherche à comprendre pourquoi des valeurs émancipatrices comme autonomie, égalité et liberté peuvent aussi créer incertitude, vulnérabilité et désarroi affectif. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la douleur amoureuse comme fait social plutôt que comme échec privé, la contribution centrale du livre consiste à déplacer le regard porté sur le malheur amoureux. Les discours ordinaires et thérapeutiques tentent à attribuer une rupture, une solitude durable ou une incapacité à choisir à des blessures personnelles, à un manque de confiance ou à une mauvaise connaissance de soi. Illouz ne nie pas la réalité des histoires singulières, mais elle conteste que celles-ci suffisent à expliquer les formes récurrentes de souffrance. Pour elle, les émotions prennent forme dans des institutions et des codes sociaux. Les critères qui rendent une personne désirable, les occasions de rencontre. Les attentes envers le couple et les règles implicites de la séparation organisent les expériences individuelles avant même que chacun les interprète psychologiquement. Cette démarche permet de comprendre pourquoi des difficultés très intimes sont largement partagées dans un même contexte historique. Elle évite aussi de transformer chaque déception en faute du sujet, tenu de réparer sans fin son rapport à lui-même. La sociologie proposée par Illouz vise donc à restituer les conditions collectives de la vulnérabilité affective. Son analyse ne remplace pas toute approche psychologique. Mais elle montre ce que cette dernière laisse dans l'ombre lorsqu'elle isole le moi de son environnement social, économique et culturel. Deuxièmement, du choix encadré au marché des rencontres autorégulées. Illouz compare le cadre ancien de la formation des couples avec la situation moderne, afin de montrer que la multiplication des choix ne garantit ni la sérénité ni la stabilité. Dans des sociétés plus fortement structurées par la famille, la classe, la religion et la proximité communautaire, les unions restaient limitées par des règles souvent inégalitaires. Cependant, ces règles rendaient plus lisibles les attentes, les rôles et les critères de convenance. La modernité a progressivement détaché le choix du partenaire de ces cadres collectifs. Le désir, la compatibilité émotionnelle et sexuelle, ainsi que la réalisation personnelle, prennent alors une importance majeure. Cette libération ouvre des possibilités réelles, mais elle installe aussi un marché de rencontres où chacun évalue et se sait évaluer selon une pluralité de critères sociaux, physiques, culturels et affectif. L'abondance apparente des partenaires possibles nourrit la comparaison et le sentiment que toute décision peut fermer une meilleure option. Les outils numériques prolongent cette logique en facilitant la circulation des profils et la mise en concurrence. Le problème étudié par Illouz n'est donc pas le choix en soi. Il réside dans une écologie du choix où la décision intime doit être prise sans garantie collective forte, sous la pression de possibilités indéfiniment renouvelées. Troisièmement, liberté sexuelle, inégalité de genre et difficulté de engagement, le livre examine les conséquences genrées de la réorganisation du champ sexuel et sentimental. Illouz soutient que la libération sexuelle et la recherche de relations plus égalitaires n'ont pas supprimé les asymétries entre femmes et hommes. Elles ont déplacé les règles et parfois rendu moins visibles les rapports de pouvoir qui structurent le désir, la reconnaissance et la possibilité d'obtenir un engagement durable. Dans un univers où la sexualité peut être séparée de la promesse conjugale, les individus ne disposent pas nécessairement des mêmes ressources ni des mêmes intérêts. Les contraintes liées au temps de la fertilité, les attentes persistantes envers la construction familiale et la valeur sociale accordée à la désirabilité peuvent peser plus lourdement sur les femmes hétérosexuelles, qui constituent le terrain principal de l'analyse. Illouz relie ainsi la peur de l'engagement et les relations ambiguës à la structure du marché amoureux plutôt qu'à une simple immaturité personnelle. Elle met également en évidence une tension culturelle, les individus désirent simultanément autonomie, égalité, intensité érotique et sécurité relationnelle. Or, ces aspirations ne coïncident pas toujours. L'ouvrage ne prône pas un retour aux normes restrictives du passé. Il invite plutôt à reconnaître que la liberté sexuelle exige des formes éthiques de responsabilité et de clarification. faute de quoi elle peut accentuer insécurité et inégalité émotionnelle. Quatrièmement, la culture thérapeutique et la culpabilisation du moi amoureux, une cible importante de Illouz, et la tendance à psychologiser les problèmes amoureux. Dans la culture thérapeutique, les difficultés relationnelles sont souvent traduites en langage de blessures anciennes, de blocages, de dépendance ou de faible estime de soi. Ce vocabulaire peut aider certaines personnes à décrire leur expérience, mais il risque aussi de présenter les échecs comme la conséquence exclusive de défauts intérieurs. Illouz estime que cette interprétation renforce la responsabilisation du sujet moderne, il doit analyser ses émotions, optimiser son comportement et devenir continuellement apte à séduire, choisir ou quitter. La souffrance est alors redoublée par la culpabilité de ne pas savoir bien aimer. Cette critique ne signifie pas que la psychothérapie serait sans valeur, ni que toute détresse aurait une origine sociale identique. Elle souligne plutôt une limite de ces usages culturels lorsqu'ils effacent les déterminations collectives. Un individu peut se croire incapable de former un couple alors que ses hésitations se développent dans un environnement de concurrence, de normes contradictoires et de disponibilité relationnelle instable. En réinscrivant le moi dans cette économie émotionnelle, Illouz cherche à réduire la fausse évidence selon laquelle chacun serait seul auteur de ses malheurs. La lucidité sociologique devient ici une manière de distinguer responsabilité personnelle et culpabilité excessive. En dernier lieu, fantasme romantique, imagination capitaliste et désillusion, Illouz accorde une place essentielle aux récits et aux images qui façonnent les attentes amoureuses. La littérature, le cinéma, la publicité. Les magazines et les espaces numériques ne se contentent pas de représenter le désir. Ils fournissent des scénarios à travers lesquels chacun apprend à reconnaître la passion, la déception ou la relation idéale. Cette imagination romantique est liée à la culture capitaliste parce qu'elle associe fréquemment le bonheur amoureux à des expériences, des objets, des apparences et des formes de consommation. Les individus sont invités à rechercher une relation exceptionnelle tout en évaluant rationnellement les bénéfices, les risques et la qualité de chaque partenaire. Le livre met ainsi au jour une tension entre abandon amoureux et calcul, entre désir de singularité et standardisation des images du bonheur. La désillusion ne provient pas seulement de partenaires décevants. Elle naît aussi de la distance entre des idéaux narratifs très élevés et des relations soumises à la négociation quotidienne, à la concurrence et à la précarité des engagements. Les références littéraires servent à historiciser cette tension, elles montrent que la souffrance a toujours existé, mais que ses formes, ses justifications et ses langages ont changé. Cette analyse donne aux fictions une fonction sociale concrète, sans les réduire totalement à de simples illusions ou marchandises. En conclusion, Pourquoi Amour fait mal intéressera les lecteurs de sociologie, de sciences humaines, de psychologie sociale et de théorie féministe. Mais aussi toute personne souhaitant comprendre les tensions propres aux relations contemporaines sans les réduire à une défaillance intime. Le livre est particulièrement utile pour penser la difficulté de l'engagement, la multiplication des choix, les normes de désirabilité et le poids des attentes contradictoires qui entourent le couple. Il ne fournit pas une méthode pour réussir sa vie affective et ne promet pas de solution immédiate au chagrin. Son apport pratique est plutôt indirect, replacer les expériences personnelles dans un cadre social peut diminuer la culpabilité et rendre plus visibles les règles implicites qui orientent les décisions sentimentales. Par rapport aux essais de développement personnel ou aux guides relationnels, Illouz se distingue par une ambition historique et institutionnelle. Elle ne demande pas seulement comment mieux communiquer ou mieux choisir, mais pourquoi les individus modernes sont conduits à se percevoir comme des agents autonomes dans un univers affectif fortement structuré par le marché, le genre et la culture. Sa perspective est aussi plus ample que celle des analyses purement psychologiques, grâce au dialogue entre théorie sociologique, littérature et témoignages. Certaines limites doivent toutefois être gardées en vue. Le livre privilégie surtout les relations hétérosexuelles et les milieux urbains éduqués. Malgré ce cadrage, il demeure une analyse dense et originale des mécanismes sociaux qui transforment la liberté amoureuse en source de vulnérabilité. Si vous souhaitez soutenir Eva Illouz, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.